La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Madame, messieurs, bienvenue à cette quotidienne. Aujourd'hui, on est avec les gens de l'Institut Jean Garon, Simon Bégin, Guy Lebailleul. Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour. Et Suzanne Dion aussi, qui s'est joint à nous. Oui.
Ben écoute, Simon, je te laisse présenter tout le monde qui est là.
Vas-y, ben oui, donc. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Madame Julie Franqueur, auteure. Et c'est tout un honneur. Alors, avec une formation en travail social, en développement régional et en sociologie, Julie Franqueur agit à la fois comme chercheuse, éditrice et journaliste, quand même. Comme chercheuse, elle a cofondé le groupe de recherche sur le travail agricole, le GRETA, de l'Université du Québec à Montréal, et co-rédigé le rapport « Pour mieux comprendre les inégalités entre les femmes et les hommes au sein du travail agricole ». Je pense que c'est pas juste là qu'il y a cette inégalité-là, mais elle est très réelle, très palpable. Alors, un ouvrage qui a été publié en 2023 par le secrétariat à la condition féminine. Alors, au printemps dernier, elle a fait paraître aux éditions du Remue-Ménage « Sortir du rang, la place des femmes en agriculture ». Vraiment, il y a quand même une continuité. Un essai qui lui vaut d'être aujourd'hui notre invitée avec, entre autres, Suzanne Dion, qui, Mme Dion, a été aussi très interpellée au cours de sa carrière par la question des femmes en agriculture, et notre co-président, M. Guy Lebailleul. Alors, Guy et Suzanne, je vous laisse avec Mme Franqueur.
Merci, Simon. Merci, Michel. Bonjour, Julie. Avant même de parler de cet essai « Sortir du rang », on a d'abord envie de vous demander pourquoi vous êtes-vous intéressée à la question des agricultrices?
Oui, bonjour Guy, bonjour Suzanne. Moi, c'est au cours de mes études au doctorat en sociologie, donc sociologie rurale, agricole, que j'ai réalisé que les femmes étaient complètement absentes de tout ce qui est la recherche dominante en sciences sociales. Ça aurait pu passer inaperçu à mes yeux, sauf qu'il s'avère que moi, à l'époque, je venais de joindre un collectif agricole dans le Bas-Saint-Laurent, donc dans la région de ma famille, de mes grands-parents. J'avais quelques amies femmes autour de moi aussi qui avaient intégré le milieu agricole. Et surtout, j'avais passé mon enfance, mon adolescence en Montérégie, dans un milieu rural, donc dans une MRC précisément, où est-ce que 98% du territoire était zoné agricole, et l'est encore. Donc, dû à mes origines, en fait, j'étais vraiment bien placée pour savoir que les femmes en agriculture, en fait, que les femmes étaient non seulement bien présentes en agriculture, mais qu'elles étaient très importantes, hein, qu'elles jouaient des rôles vraiment centraux dans le monde agricole. Donc, ce constat-là de leur absence, ben pour moi, ça a vraiment été un point tournant dans mes recherches, dans ma façon d'aborder mon travail de chercheuse. Et heureusement, ça coïncidait à peu de choses près avec le lancement dont Simon parlait en introduction, donc le lancement de la stratégie égalité par le gouvernement du Québec, donc stratégie égalité 2017. C'est une stratégie qui m'a permis de monter mon groupe de recherche, donc le GRETA, avec mes deux collègues à l'UQAM, Elisabeth Aberriel et Elsa Galran. Et là, on a lancé une grande enquête quantitative pendant la pandémie, combinée à des entrevues, donc qualitatives, avec des travailleuses de rang qui évoluent sur tout le territoire du Québec. Et ça nous a permis de documenter finalement le travail, notamment le travail invisible, mais le travail des femmes en agriculture, principalement là où elles sont majoritairement, c'est-à-dire dans des entreprises agricoles familiale.
Vous nous indiquez dans votre livre que les institutions québécoises invisibilisent les agricultrices. C'est moi qui les ai connues encore plus invisibles il y a maintenant 40 ans quand j'ai fait une recherche là-dessus. Je pensais que cette situation-là avait changé. Pouvez-vous nous expliquer comment les institutions invisibilisent les agricultrices?
Oui, si on prend justement l'exemple par excellence là d'institutions dans le monde agricole, hein, c'est la ferme familiale. Je viens de le nommer, c'est là où les femmes oui sont le plus présentes, mais ça représente aussi à l'échelle du Canada 98% des entreprises agricoles. Donc très présent au niveau du Canada, du Québec, mais aussi dans le monde occidental. Hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire une ferme familiale? En fait, ça veut dire qu'il y a très peu de séparation là, de distinction qui est faite en ce qui relève de la famille. famille d'une part, puis ce qui relève finalement de l'agriculture, de la vie professionnelle d'autre part. Donc, et ce qu'on observe en fait, c'est cette confusion-là entre les sphères familiales et professionnelles. Mais encore aujourd'hui, Suzanne, c'est encore les femmes qui en font principalement les frais. Donc, ce sont elles encore aujourd'hui, on entend parler aussi en tant d'autres domaines que l'agriculture, là, ce sont elles qui majoritairement vont adapter leur horaire de travail en fonction des contraintes familiales. Ce sont elles aussi qui vont, à qui va incomber l'articulation travail-famille. Donc, typiquement en agriculture, je pense aussi que tu l'avais noté dans tes recherches il y a une quarantaine d'années, c'est que les femmes typiquement vont avoir un triple rôle à la ferme, donc un rôle au niveau du travail domestique, donc tâches ménagères, éducation des enfants, tout ce qu'on appelle finalement la charge mentale aujourd'hui. Le travail aussi typiquement agricole, c'est-à-dire toutes les tâches qui sont reconnues par la profession agricole comme faisant partie de ce qu'est l'agriculture. Donc, un exemple parmi tant d'autres auxquels les femmes sont souvent associées, du moins dans les industries, les firmes laitières, donc la traite. Et un troisième rôle, ben, c'est le travail qui peut être exercé par la femme à l'extérieur de l'entreprise, donc un emploi. Et donc, à ce niveau-là, le salaire va servir à maintenir la ferme à flot, puis va aussi servir à payer tout ce qui est dépenses familiales courante. Donc, tout ce travail-là, ça représente beaucoup d'heures dans une semaine. Dans la recherche que j'ai effectuée donc au GRETA avec mes collègues pour le secrétariat à la condition féminine, on a pu calculer que ça représentait entre 60 et 77 heures par semaine. Donc, c'est énorme, c'est majeur. Et malgré l'importance donc de ce travail-là, il y a des estimations au Québec qui nous disent qu'il y a encore une femme sur trois qui évolue dans une entreprise agricole familiale, soit sans salaire ou sans part. Donc, si on veut un exemple, comme pour revenir à la question initiale, donc si on veut un exemple d'institution qui agricole, qui invisibilise encore aujourd'hui les femmes, ben je pense que celle-là, c'en est un bon.
Au moment où je faisais mes recherches, moi, il y a quand même longtemps, j'espérais que l'arrivée des femmes en agriculture allait modifier un peu les orientations que prenaient les organismes comme l'UPA, le MAPAC, les coopératives, mais ça ne s'est pas réalisé comme ça. Vous observez que le modèle des petites fermes, des structures un peu différentes, là, parfois coopératives, permettent aux femmes de modifier un peu le portrait. Est-ce que vous faites un rêve un peu comme le mien ou est-ce qu'il va se réaliser ou est-ce que vous avez observé qu'il se réalise actuellement?
Oui, ben d'abord, oui, effectivement, nos visions, Suzanne, se rejoignent plutôt, en fait, à ce niveau-là. C'est comme ça, c'est à travers cette idée-là, en fait, ce rêve-là qu'on s'est d'abord rencontrés, toi et moi. Donc, pour l'une comme pour l'autre, je pense que parler des femmes en agriculture, oui, c'est parler de l'égalité homme-femme, égalité des droits, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, ça dépasse cet enjeu-là, d'autant plus aujourd'hui, parce que effectivement, il y a des avancées qui ont été réalisées dans les années 80, notamment avec tout le travail que vous avez réalisé. Et donc, parler des femmes en agriculture aujourd'hui, c'est oui, parler de droits, mais c'est parler aussi de nouveaux modèles agricoles, c'est parler de l'agriculture de demain, c'est parler d'environnement, c'est parler de sortie de crise. Donc, en soi, à ce niveau-là, ben, je pense qu'on n'invente rien, hein, moi encore moins que toi, mais c'est une association, en fait, féminisme écologie qui a été établie dans le monde occidental dans les années 70, minimalement. En agriculture en particulier, déjà, hein, dans les années 80, les hommes parlaient entre eux, puis ils parlaient juste de rentabilité. Les femmes, de leur côté, elles discutaient entre elles et elles parlaient, oui, de rentabilité, bien entendu, c'est des entreprises, donc il faut que ce soit rentable, on s'entend, mais elle parlait aussi de relève, de qualité de vie, beaucoup de qualité de vie, elle parlait d'environnement, de nature, donc elles avaient à cœur un modèle d'agriculture, oui, familiale, qui était différent, qui était passablement différent de celui que les hommes mettaient de l'avant. Mm-hmm. Est-ce qu'ensuite, est-ce qu'elles ont, deuxième élément de la question, est-ce qu'elles ont réussi à influer l'agriculture dans le sens où elles auraient souhaité? Effectivement, non, du moins pas à large échelle, hein, il y a des exemples, mais à large échelle, non, ça s'est pas fait. Toutefois, moi, j'ai l'impression, c'est vraiment une impression, hein, que les choses pourraient, la donne pourrait être en train de changer actuellement. Le vent pourrait commencer à tourner. Les femmes ont effectivement un effet très positif sur l'agriculture. Je pense qu'elle participe actuellement depuis quelques années à établir des nouveaux critères, des nouveaux standards, hein, de ce que c'est l'agriculture, puis de ce que c'est la bonne agriculture. En fait, déjà dans les années 80, on parlait de crise, hein, et ces crises-là, ben, elles se sont pas résolues, en fait, elles se sont aggravées avec l'aggravation notamment de la crise environnementale en ce moment. Ben, il me semble que ce qu'on observe, en fait, c'est que les consommateurs, d'un côté, ben, sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est la dimension politique de leur alimentation. Du côté du monde agricole, ben, il me semble que le monde agricole considère avec plus de respect qu'avant, plus d'intérêt qu'avant, tout l'univers des petits entrepreneurs et des petites entrepreneuses agricoles. Donc oui, c'est ce qui me fait dire, en fait, qu'il y a un certain, oui, mouvement de sympathie et que les choses sont peut-être en train de bouger de ce côté-là pour les femmes.
Mais ça me frappe parce que ça me renvoie aussi à l'époque où j'enseignais à l'Université Laval, à la faculté d'agriculture, et que j'ai constaté que mes étudiantes semblaient beaucoup plus intéressées à des thématiques comme l'agriculture biologique que leurs collègues masculins. Donc, il y avait effectivement déjà ce constat. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à relier les femmes à des modèles qui s'avère en tout cas en ce moment encore plus difficile à rentabiliser?
Mais oui, je suis d'accord à l'effet sur l'idée qu'il y a un risque. Ensuite, c'est pour ça que j'insiste beaucoup d'ouvrages dans mes travaux sur l'importance de repenser, hein, le contrat social agricole, parce que je viens de parler d'un mouvement de sympathie, mais il faut sentir aussi on s'entend toute là-dessus, hein, il faut sentir une volonté politique ferme du côté du gouvernement pour soutenir ces petites fermes-là, éviter l'épuisement des femmes et des hommes qui sont à la tête de ces entreprises-là. Donc oui, il y a un risque, mais je pense que en fait, faut revoir nos priorités, faut revoir l'orientation en partie de notre agriculture.
Vous parlez beaucoup.
Peut-être que, si, Suzanne, je pense qu'il va peut-être être temps pour une pause, Simon, et on revient plein de questions encore après la pause.
Effectivement, Guy, alors on prend un petit moment d'arrêt et on revient avec cette très intéressante entrevue avec Mme Julie Francoeur.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélisle, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Donc, vous nous donnez le point de départ, Simon.
Alors oui, on est de retour avec notre invitée, Mme Julie Francoeur, pour parler de la libéralisation, si on peut dire ça comme ça, de la femme en agriculture. Alors, j'aimerais peut-être commencer avec un petit rappel historique. Moi, quand j'étais avec M. Garon, au début des années 80, il y a eu tout un débat. C'était un peu le début de la revendication de la prise de parole et de pouvoir des femmes en agriculture. Il y avait à l'époque le débat sur la prime à l'établissement. C'était vraiment une belle illustration de l'enjeu. Si deux messieurs, deux frères, mettons, se prenaient la relève, s'établissaient sur une ferme, chacun des deux gars avait la prime à l'établissement. C'était un homme et sa conjointe, elle aussi engagée en agriculture, même copropriétaire de la ferme. Alors, il y avait une seule prime à l'établissement. L'épouse, la conjointe, à cause de son statut de femme et de conjointe, n'existait tout simplement pas aux yeux du régime. Alors, je pense que c'est un petit exemple, Guy et Suzanne, de ce que ça pouvait vouloir dire, l'inégalité homme-femme en agriculture. Alors, je vous laisse aller avec Mme Francoeur.
Oui, alors, on a fait du chemin depuis ce temps-là. Évidemment, l'accès des femmes à la prime à l'établissement a permis à beaucoup de femmes de devenir copropriétaires. Alors, c'est déjà quelque chose qui s'est amélioré. Mme Francoeur, vous faites état dans votre livre de l'importance du care, du prendre soin, que les femmes ont, disons, développent davantage que les hommes en général, auprès de leur famille, dans les entreprises, tout ça. Et là, on peut l'étendre à la planète aussi. Le care, l'importance que les femmes accordent à prendre soin des autres peut s'étendre à la planète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept-là, parce que je le trouve très intéressant. Il peut en même temps être un piège pour les femmes, là, peut-être, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez.
Oui, bien en fait, ce qu'on appelle hein, le paradigme du care, ou on peut appeler ça le prendre soin, ou peu importe le nom qu'on veut lui donner, dans mon ouvrage « Sortir du rang », donc j'ai parlé de care, je crois que c'est un mot juste en fait. Donc le care, le paradigme du care, c'est une vision de l'agriculture au fond qui est opposée aux logiques de domination de la nature, puis de rupture avec le territoire et donc avec les consommateurs, des logiques qui sont propres au modèle productiviste, donc celui qui est dominant, celui qui s'est mis en place dans l'après-guerre. Ce que les études nous disent, en fait, c'est que les femmes, elles ont tendance à penser que les liens avec les consommateurs, bien, que c'est quelque chose d'important. Et cette éthique-là du cœur, bien, elles vont l'élargir à l'environnement, donc en développant toutes sortes de pratiques agricoles qui sont respectueuses de la nature. Donc, oui, effectivement, Suzanne, je suis d'accord qu'avec l'idée du cœur, il y a un risque à enfermer les femmes. Sinon, dans certains modèles, du moins, parce que le care, ça peut prendre différentes formes, hein, mais du moins, les enfermer dans certains rôles sociaux de sexe qui ont une petite saveur traditionnelle. Mais pour autant, est-ce que c'est un piège? Ben, moi, je me dis certainement pas. Parler de piège, pour moi, ça suppose qu'on est sur une fausse piste, en fait. Alors que prendre soin de l'environnement, prendre soin des relations ville-campagne, donc des relations producteurs-consommateurs, ben, à mon sens, puis au sens de plusieurs, hein, j'invente rien à ce niveau-là non plus, c'est vraiment une voie d'avenir. Ensuite, il faut dire que le care, comme il est valorisé dans le paradigme du care, justement, il va sortir le fameux prendre soin de la sphère familiale. Donc, c'est dans la sphère familiale, au fond, que le care est particulièrement invisible, qui est particulièement non reconnu. Là, c'est sûr qu'ensuite, hein, tu sais, c'est sensible comme sujet, parce que c'est sûr qu'on est dans des sociétés qui, globalement, dévalorisent le travail de care. Donc, ça revient encore une fois, je pense, à dire que il n'y a pas de solution magique, mais ça revient encore une fois à dire, je crois qu'il faut revoir ce fameux contrat social agricole, puis vraiment considérer la réalité particulière des femmes encore aujourd'hui dans l'agriculture.
Alors, en prolongeant cette réflexion, est-ce qu'on pourrait aussi se demander si les formules collectives du type coopérative ou autre peuvent être une voie à explorer tout particulièrement pour les femmes? Il me semble que vous-même, vous avez, non seulement à travers votre recherche, mais à travers des expériences personnelles, vécu des situations comme ça.
Oui, tout à fait. Mais je le mentionnais d'entrée de jeu là, que j'ai une expérience sur un collectif agricole dans le Bas-Saint-Laurent, donc dans ma région familiale. Oui, et en fait, ce que j'aimerais dire par rapport au modèle agricole collectif, en fait, c'est que c'est des modèles qui organisent finalement le travail autour de la communauté plutôt que le travail soit organisé autour de la famille. Et ça, ce passage-là de la famille à la communauté, ben c'est quelque chose qui moi m'a parlé beaucoup à l'époque. Donc ça fait une dizaine d'années, donc j'avais à peine 30 ans, et donc ça parle à une certaine relève agricole féminine, notamment une relève qui est non apparentée. Ensuite, effectivement, par expérience, je peux dire par expérience puis avec aussi les quelques études qui existent sur le sujet, je peux dire que ce n'est pas une solution magique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on change de structure organisationnelle qu'on change de mentalité. Le collectif ne va pas tout régler ce qui est relation, rapport inégalitaire homme-femme, mais effectivement, ce que les études tendent à montrer, ce que l'expérience tend à montrer également, c'est que c'est un outil, hein, le collectif, un outil parmi tant d'autres qui peut permettre une gestion plus féministe et ferme, donc qui pose les conditions à une gestion plus féministe et ferme. Ce qui est particulièrement intéressant aussi avec le collectif, et peut-être surtout à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'il rend possible des projets d'établissement qui n'auraient probablement pas pu voir le jour autrement. Tu sais, je parlais de relève agricole non apparentée, donc c'est souvent des femmes ou de jeunes hommes, souvent des femmes qui vont s'établir en agriculture via le collectif et qui donc n'auraient pas pu le faire autrement. Si on veut un exemple, il y a Stéphanie Wang qui est propriétaire unique de la ferme Le Rizen à Frelinghuysburg. Stéphanie, c'est une jeune entrepreneuse que j'avais connue lors de mes études en sociologie à l'UQAM, et elle rêvait de s'établir en agriculture alors qu'elle n'en avait pas les moyens familiaux. Donc, c'est grâce à une coopérative donc, qu'elle a pu s'établir, et son projet est très porteur encore l'été dernier. Elle a reçu le prix de producteur-productrice de l'année au laurier de la gastronomie. Donc, le collectif, de ce point de vue-là, c'est un exemple, mais le collectif fait naître ou permet la naissance de différents projets qui sont incroyables, qui sont porteurs, qui sont novateurs et qui n'auraient pas pu donc exister autrement.
Vous indiquez dans votre livre aussi que la CPTAQ n'aide pas les agricultrices qui ont peu de moyens, là, parce qu'on veut éviter le morcellement des terres. Vous avez probablement des exemples de cet ordre-là aussi. Les coopératives ont plus de moyens.
Mais en fait, ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est que la loi sur la protection du territoire agricole a été adoptée donc en 1978 dans un contexte où est-ce que on se dotait au Québec de différents moyens pour consolider nos fermes, hein, pour favoriser notre autonomie alimentaire. Et donc cette loi-là a eu un impact vraiment important sur la possibilité même de développer des projets à petite échelle, donc sur petite surface, quelques hectares à peine. Et il s'avère que cette stratégie-là, ben, c'est une stratégie qui est souvent employée, utilisée par les femmes pour s'établir en agriculture. Donc, l'enjeu avec la loi, finalement, ben, un des enjeux, c'est qu'une fois fusionnées, ben, les terres, elles peuvent plus être redivisées sans l'accord préalable de la commission. Et en raison même des critères qui sont utilisés par la commission, mais c'est devenu très, très difficile donc de faire valoir la viabilité ou le bien fondé d'une petite ferme, même pour les personnes, finalement, hommes et femmes, qui ont les compétences agricoles pour mener ces projets-là à bien. Donc, les terres sont devenues très grandes, très chères. Hein? Donc, si on ajoute à ça le prix des quotas, hein, à coût de 90 vaches par ferme laitière, 30 000 pouces, poules pondeuses, 60 000 poulets en moyenne, ben c'est ça, il faut dépenser des millions juste pour s'établir en agriculture aujourd'hui. Alors, quand on est une femme, on a peu de capitaux, ben ça représente finalement une porte close là, pour les femmes.
Et est-ce qu'actuellement, les femmes sortent de l'agriculture, ou bien si elles sont plutôt portées à entrer là, en agriculture, est-ce que l'augmentation du nombre de femmes peut être calculée actuellement?
Oui, bien, on dispose de peu de données statistiques à ce niveau-là. Cela dit, dans le dernier recensement agricole disponible, donc 2021, on a vu finalement à l'échelle du Canada une augmentation de la proportion de femmes entrepreneurs, entrepreneuses agricoles. Donc, la proportion est quand même passée de 28,7% à 30,4%. Cela dit, à partir de ces données-là, c'est dur à savoir est-ce qu'on parle de relève agricole, hein? Est-ce qu'on parle de veuves qui ont repris la ferme le temps que la relève finalement soit prête à s'installer. Ce qui est sûr, c'est qu'au Québec, le MAPAQ, à partir des données du recensement, a pu évaluer qu'au sein de la relève agricole en tant que telle, donc les moins de 40 ans, bien, la proportion de jeunes femmes avait augmenté lors du recensement de 2021. Donc, entre 2016-2021, la proportion de jeunes femmes dans la relève était passée de 27 à 29 %. Et ça, c'était particulièrement, en fait, les femmes sont particulièrement importantes au sein de la relève parmi les jeunes qui vont démarrer une nouvelle entreprise ou qui vont s'établir par transfert non apparenté. Donc, c'est vraiment une voie assez, entre guillemets, typiquement féminine là, pour les femmes pour s'établir. Ouais.
Vous avez, Julie, vous avez signalé qu'un certain nombre d'agricultrices peuvent se retrouver les mains vides après un divorce, parce qu'elles n'ont effectivement aucun droit sur l'exploitation. Certains pays ont adopté des politiques sociales apparemment plus audacieuses en faveur aussi bien des agriculteurs que des agricultrices. Je pense à l'institution d'une retraite en France pour les agriculteurs comme pour les agricultrices. Est-ce qu'il y aurait lieu d'explorer des voies de ce type au Québec?
Oui, ben pour peut-être le contexte en clair, je sais qu'il y a une femme sur trois dans les entreprises agricoles, c'est des estimations bien entendu, mais une femme sur trois qui travaille sans part, sans salaire. Puis même lorsque les femmes ont des parts ou des salaires, ben leur engagement souvent va vis-à-vis des firmes familiales va se perpétuer, va se poursuivre après la séparation ou le divorce parce que sans leur contribution finalement, elles savent que la ferme ne pourra pas survivre et si elles veulent éventuellement transmettre la ferme à la relève, bien, ça va poser problème à ce moment-là. Donc oui, Guy, il y a des États, je ne suis pas une experte de la question, du spécialiste de la question, mais il y a des États qui ont pensé, disons qu'il y a des propositions un peu plus avant-gardistes que les nôtres hein, pour trouver des solutions pour reconnaître, protéger en fait les femmes dans ce contexte-là. Au Québec, il y a Agricultrices du Québec, donc qui est le regroupement des femmes en agriculture qui a récemment investi des ressources avec le Greta justement pour développer un calculateur du travail des femmes. Donc, c'est un outil qui est censé sortir, si tout va bien, cet automne. Et l'idée derrière l'outil, c'est de cumuler davantage de données et justement de, un peu comme Suzanne l'a fait dans les années 80 en voulant chiffrer en fait un peu les demandes des femmes en agriculture. Alors, on veut trouver des arguments pour avoir différents programmes politiques sociales qui pourraient effectivement permettre de compenser et de protéger les femmes en agriculture.
Est-ce que vous voyez les choses positivement pour l'avenir ou si vous voyez des menaces un peu plus importante qu'avant, étant donné tout ce qu'on vient de dire, dans le fond, là, les choix que les femmes font et les choix que les organismes agricoles font, est-ce que vous voyez un avenir pour les femmes?
Oui, bien, en fait, je me dis, est-ce que je suis optimiste, est-ce que je suis pessimiste? En fait, je pense que réalistement, quand les femmes en agriculture se mettent à l'action, on l'a vu dans les années 80, elles peuvent vraiment soulever des vagues et faire changer les choses très rapidement. Ensuite, je pense que l'urgence environnementale va contribuer à renforcer les enjeux féministes en agriculture. Donc, les années à venir vont quand même être assez structurantes, je crois, du côté en agriculture en général et avec les femmes en agriculture, oui.
Écoutez, Mme Francoeur, Guy et Suzanne, c'était très intéressant, mais le temps est déjà écouté. Oui, en terminant, bien, merci beaucoup. C'était très, très éclairant, très intéressant. Effectivement, il faut regarder l'avenir et se poser des questions. Au Québec, on a eu très brièvement une femme ministre de l'Agriculture. Il faudrait probablement que ça revienne. Et pourquoi pas une femme présidente de l'UPA? Je pense que ça enverrait un très beau signal. Alors, merci beaucoup, Suzanne, Guy et Mme Francoeur. Et c'était très intéressant et on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Alors, à la prochaine.
Ça complète cette quotidienne. Merci. À la prochaine.